Vous écoutez RTL. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Vous vous souvenez tous de la célèbre serveuse de Montmartre, Amélie Poulain, que nous avons adorée au cinéma. Et bien depuis quelques jours, l'héroïne, elle est devenue l'héroïne d'une comédie musicale à Broadway. Notre correspondant aux États-Unis, Philippe Corbet, a assisté à une représentation et on le rejoint dans un instant. À la télévision ce soir, M6 diffuse Premier Homme. C'est un docu-fiction événement sur nos origines. À suivre des extraits en avant-première avec Isabelle Morini-Bosque. Et rendez-vous au 3210 où nous vous offrirons des exemplaires du livre Premier Homme pour les grands et puis aussi les versions pour les enfants. Charlotte Arrigoni a préparé pour nous ses express du jour frais livrés. Et puis nous passerons en revue les nouveautés musicales de la semaine avec Stephen Bellery. On découvrira notamment l'univers de Juliette Armanet. Un nouveau talent très prometteur. Son premier album sort vendredi.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Nous allons donc tout de suite retrouver notre correspondant à New York. Bonjour Philippe Corbet.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Hier soir avait lieu à Broadway la première d'Amélie Poulain. C'est l'adaptation en comédie musicale du film de Jean-Pierre Jeunet qui avait enchanté plus de 8 millions de spectateurs en France en 2001 et reçu 5 nominations aux Oscars à Hollywood.
Et je vais vous raconter le fabuleux destin d'Amélie Poulain de Montmartre à Broadway, du Café des Deux Moulins au Walter Kay Theater.
Voilà, il suffit de quelques notes de musique de Jan Tiersen pour se souvenir de l'atmosphère sépia de Jeunet. Et c'est vrai qu'on retrouve sur scène des petits détails qui nous transportent loin de Manhattan. La cabine téléphonique avec le logo des PTT, un pont sur le canal Saint-Martin, les couleurs du nain de jardin jovial, le zinc du café des Deux Moulins, menu du jour seule meunière et coq au vin. Mais dans cette version de Broadway, pas de Jan Tiersen, c'est un Américain qui a composé une musique très américaine. Ça, c'est la mélodie principale du spectacle.
Alors, ça chante très bien. C'est un peu déroutant quand même, non ?
Oui, j'en ai parlé d'ailleurs avec Guillaume Laurent, le co-scénariste du film, et Craig Lucas, un nom respecté de Broadway. Il a passé beaucoup de temps à Paris pour écrire Amélie.
Oui, mais c'est vrai qu'un air d'accordéon, en plus d'une reconstitution de Paris sur scène, là, on était quand même un peu trop dans une carte postale.
Ça pouvait pas ressembler à du Piaf, crier, déclamer. Non, je ne regrette rien. Ça aurait été dingue et affreux, de mauvais goût. Parce qu'Amélie, c'est pas ça. Elle n'épate pas la galerie. She
doesn't grandstand. Et puis autre problème quand on veut monter une comédie musicale, dans le film, l'héroïne est presque muette. Amélie, toujours un peu dans la lune, est maladivement timide. Elle observe mais ne parle presque pas.
C'était le ou l'un des plus grands défis. Il fallait respecter cette timidité, trouver une voix pour exprimer ce qui se passait derrière ses yeux.
Dans votre comédie musicale, quand elle chante, en fait, elle rêve, elle n'est pas en train de parler.
Presque toujours. Il fallait sentir que quand elle chante, ce n'est pas à tue-tête, comme la plupart des héros et héroïnes de comédie musicale américaine.
Jean-Pierre Jeunet n'a pas été associé au projet, hein ?
Non, il a même longtemps traîné des pieds et n'a cédé les droits qu'afin de récolter un peu d'argent pour une organisation de charité. Souvenez-vous de ce qu'il disait à Stephen Bellery en 2013 dans Laissez-vous tenter sur RTL.
J'ai absolument horreur des comédies musicales et je hais Broadway. Je considère que c'est l'incarnation même de la ringardise. Ça me dégoûte profondément cette comédie musicale. Je peux vous dire que j'irai pas la voir, je ne sais pas ce qu'ils font.
Et voici la réponse de l'auteur américain et du co-scénariste du film.
Je ne crois pas que ce soit une comédie musicale typique. Il trouve peut-être que c'est ringard, mais je ne crois pas qu'elle soit aussi ringarde que la plupart des comédies musicales américaines.
Déjà, je pense qu'il y a quelque chose tout simplement de goût personnel. Il n'aime pas les comédies musicales, ça fait partie de... Lui n'en regardait pas, c'est des films, même Jacques Demy, par exemple.
Il trouvait ça ringard, Jacques Demy ?
Il déteste les comédies musicales, ça n'appartient pas à sa culture.
Bon, ça reste quand même très professionnel. Hein. La Amélie américaine s'appelle Philippe Assou. Elle était récemment dans la création de Hamilton, le plus grand succès de Broadway depuis 40 ans. Mais quand on enlève la musique de Tiersen, la créativité visuelle de Jeunet, cette poésie sur l'écran, du temps qui passe, de la force de l'imagination, et que vous y ajoutez une mélodie un peu sirupeuse, des éléments de mise en scène qui rappellent presque le dessin animé, eh bien, que reste-t-il ? La fantaisie d'Amélie, certes, mais aussi un côté un poil, allez, un poil nunuche, on peut le dire. Donc, si vous venez à New York, faites-vous votre avis, même si vous parlez assez mal l'anglais, vous connaissez au moins l'histoire.
Oh bah vous nous donnerez un autre spectacle à aller voir, si j'ai bien compris.
Non, allez-y.
Ah bon, très bien. C'était Philippe Corbet en direct de New York. Merci, vous avez fait passer un très bon moment. Et puis, cette Philippe Assou, elle chante vraiment très bien. Là-dessus, il y a vraiment...
Ah oui, absolument.
Aucun doute. On se retrouve dans quelques instants pour discuter télévision. Il y a un très, très, très beau rendez-vous ce soir dont va nous parler Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
À 9h07, nous allons nous intéresser à notre soirée télévisée. On rappelle évidemment, Isabelle, le débat proposé ce soir sur BFM TV et CNews entre les 11 candidats.
Oui, vous ne vous attendez pas à une fine analyse politique de ma part. Je vais donc vous en dispenser en précisant simplement que le plateau du studio de la Plaine Saint-Denis fait plus de 800 mètres carrés, ouais. Que le décor est circulaire et les candidats en arc de cercle face aux présentatrices Rutel Krief et Laurence Ferrari, mm-hmm. Les meneuses de débat. On rappelle que les introductions et les conclusions seront de 1 minute chacune au lieu d'une 30 pour les primaires, soit 11 fois 30 secondes de gagner pour le débat à haut débit. Comme dit l'autre, il n'y a plus qu'à.
Alors, votre énorme coup de cœur est pour le documentaire fiction Premier Homme qui est diffusé sur M6. Pourquoi parler de fiction d'ailleurs ?
Parce que ces ancêtres des premiers hommes sont incarnés par des comédiens recouverts de masques d'une finesse inouïe qui permettent absolument toutes les expressions à la mobilité du visage. Alors, les rares critiques parlent d'ailleurs d'anthropomorphisme dénaturant la réalité. Ils la connaissent, eux, la réalité. Et puis, comment se sentir attaché si on n'est pas impliqué ? Alors, ça dénature rien. Au contraire, vraiment, ça nous rend les choses très proches. La critique ne tient pas. Alors, qu'apprend-on ? Eh bien, tout. Que notre grand-mère, l'australopithèque Lucie, n'est pas du tout la première à s'être mise debout. Elle fait même, au contraire, partie d'un groupe qui, faute d'avoir voulu quitter les arbres, va finir par s'éteindre. Le premier à s'être dressé, c'est le Pierrot-là. Vous n'en aviez jamais entendu parler,
non.
Moi non plus. Il y a environ 13 millions d'années, long poil laineux, yeux d'or, il est adorable, il connaît les contrepoisons et il invente le rire pour désamorcer les situations, la preuve.
Le rire.
Voilà, c'est pas beaucoup pire que certains d'aujourd'hui, le mien notamment. Alors quand la Méditerranée devient une mer morte...
Oui.
Le Pierrot-là va vers l'Afrique, plus au sud, et il y a quelques 7 millions d'années, il devient Toumaï, un hominidé qui invente la guerre, la séduction. Et oui, plus il se met debout, plus il est loin du centre de gravité sexuelle. Écoutez plutôt.
C'est que le mâle voit moins bien le sexe des femelles. Comment savoir si elle est réceptive ? Avant de passer à l'acte, cela l'oblige désormais à tester la bonne volonté de la femelle.
Voilà, là franchement je crois qu'elle veut pas. Et les sentiments suivent, les couples se regardent, ils découvrent le baiser et l'amour face à face, plus fesse à fesse. Mais celui qui en dit plus sur la sexualité, c'est Pascal Pic, paléo-anthropologue et maître de conférences au Collège de France, qui était également hier soir avec nos amis Thomas Hugues et Sidonie Bonnec.
Oui, parce qu'on a affaire à des espèces qui vivent beaucoup plus longtemps, qui marchent beaucoup mieux debout, ce qui modifie quand même l'anatomie, l'allure et les rapports à la sexualité et à l'attirance, bien évidemment. Alors, comme nous savons que chez les hommes, les chimpanzés et les bonobos, il y a des préférences entre les partenaires sexuels, il y a des jeux érotiques ou des attouchements, etc. Si on retrouve ça chez les descendants, on pense que c'est chez les ancêtres. La sexualité ne va pas être engagée que pour faire des petits. La sexualité intervient pour spolier, mais pour donner du plaisir. C'est aussi pour réguler les relations sociales, pour avoir des liens d'amitié qui peuvent être aussi homosexuels. Hein. Et ça apparaît du temps de Toumaï.
Et ce qui est curieux, c'est que la femelle, toute puissante au départ, et elles vivent en groupe, eh ben, vont devenir de plus en plus fragilisées et finir en harem. Eh oui, on ne réécrit pas l'histoire. Et bientôt apparaît l'Homo naledi, qui commence à parler, à quitter les arbres pour la savane, poussé par la faim. Il se découvre chasseur et chassé.
Vanana, tete, tout.
Voilà. Vous savez quoi ? Tout reste à découvrir. Pascal Pic le prouve.
Bah celui-là, il nous est tombé dessus, on ne s'y attendait pas. Parce que depuis 1964 exactement, les paléanthropologues ne s'entendent pas sur qui est le premier homme. Alors, il y avait une réunion en Tanzanie, là où avait été trouvé le Homo habilis. Alors, Homo habilis, il fait en disant 1m10, il a un cerveau de 600 cm3, à peu près la moitié du nôtre, une mâchoire un peu solide, des bras encore longs et des jambes courtes, mais il marche mieux que Lucie, par exemple. Et puis, on se disait, voilà, c'est un homme tout à fait convenable. Et voilà que notre collègue d'Afrique du Sud arrive avec Homo naledi, les restes de 15 individus trouvés dans une grotte dont on ne connaît pas la
excellent. Et c'est au Mont d'Adélie, exactement l'inverse de Homo habilis. Plus grand, plus longiligne. En dessous du bassin, il marche quasiment comme Homo erectus, donc les premiers hommes. Mais au-dessus du bassin, c'est une cata totale. C'est un corps d'Australopithèque qui vit dans les arbres. Le cerveau est encore plus petit. On l'a fait Homo parce qu'il est proche des origines de l'homme. Aujourd'hui, la question de qui sont vraiment les premiers hommes, avant les hommes avérés, qui sont les Homo erectus, on ne sait pas parce que nous sommes confrontés à une diversité à laquelle on ne s'attendait pas. On n'est pas au bout de nos surprises.
La suite ce soir sur M6, et moi j'ai trouvé ça vraiment prodigieux, mais retenez tout de même ce détail sur l'Homo erectus, oui. Qui est toujours vrai aujourd'hui d'ailleurs.
C'est un homme, un vrai. Alors là, tout le monde est d'accord. Alors ça, c'est autour de 2 millions d'années. Ce sont des bêtes de course absolument hallucinantes. Ça m'a retenu. Ils vont inventer la chasse à l'épuisement. Les autres proies vont pas s'habituer à cela. Ils avaient des masses musculaires et squelettiques absolument ahurissantes. Alors pour des périodes un peu plus récentes, là, c'est quasiment notre espèce, mais la version plus ancienne, ils couraient plus vite que Usain Bolt, ces gars-là. Ils avaient des parois, des os extraordinairement robustes. Puis derrière, fallait tout mobiliser. C'est 90 kilos, 100 kilos que de muscles qui courent, quoi. L'homme ne court pas vite, mais il est extraordinairement endurant. C'est ça qui fait sa force. Et puis, ils vont inventer le feu. Ces Homo erectus, avec le langage, tout ça en même temps.
Et l'homme est toujours le meilleur coureur de toutes les espèces. Donc la suite ce soir sur M6, moi j'ai trouvé ça un exercice de vulgarisation absolument prodigieux.
Ça a l'air passionnant. Quoi d'autre à signaler?
Évidemment, Capitaine Marlowe sur la 3, 6 400 000 téléspectateurs la semaine dernière, suivi d'un prodigieux numéro de l'émission Divan. C'est véritablement un scoop cette émission, parce que pour la première fois, le très pudique Vicente Lizarazu, qui déteste les interviews, eh bien, se confie en pudeur et en profondeur sur tout, y compris le très intime et le public, par exemple sa retraite.
C'est dur, c'est la fin. C'est curieux parce que t'as 36 piges et puis tu pars à la retraite. Ils m'ont fait un hommage extraordinaire. Et voilà, et en même temps, tu quittes ce que t'aimes le plus au monde, c'est-à-dire jouer au foot, faire des matchs, la compète. Et en même temps, j'étais lassé par la routine. J'avais besoin de liberté, quoi. Il y a des mecs qui partent en dépression, hein.
Franchement, ne loupez pas ce soir le divan de Marc-Olivier Fauget.
J'ai l'impression que c'est un numéro exceptionnel.
Oui, il est tout particulièrement exceptionnel pour parler populaire.
On va jouer maintenant. Nous vous offrons ce matin deux très beaux livres parus chez Flammarion et qui racontent précisément qui était ce premier homme apparu il y a quelques 13 millions d'années, avec également la version jeunesse qui sera signée par le paléo-anthropologue Pascal Pic. Mais pour les gagner, il faut d'abord répondre à la question que vous pose immédiatement Isabelle.
Eh bien, comment s'appelle notre tout premier ancêtre apparu il y a 13 millions d'années?
J'ai la réponse, je vais la donner, quel imbécile. Vous nous avez écouté, donc vous devez le savoir, et sinon vous réécoutez. Enfin, je ne vais pas vous donner le mode d'emploi de tout ça. On passe à nos audiences, non?
Ah oui, les audiences. Oui, du coup, voilà. J'allais les oublier avec tout ça.
C'est avec Médiamétrie, et c'est présenté par Isabelle Morini-Bosch.
Joséphine Ange-Gardien, c'était un inédit hier, et c'est la moyenne habituelle de cette série. 5 400 000 téléspectateurs environ, 23% du public sur la une. Deuxième position, à l'état sauvage sur M6, 3 300 000 téléspectateurs quasiment, 14% du public sur la 6, beaucoup plus de femmes responsables des achats, comme disent les publicitaires. Et en troisième position, eh bien, c'est Shades of Blue sur la 2, la série américaine. 2 040 000 téléspectateurs. Côté TNT, c'est Captain America sur TMC qui est en tête, 1 200 000 téléspectateurs.
Merci beaucoup Isabelle, on se retrouve dans quelques instants. Ah non, on y va directement. Mettez-moi un petit jingle.
Les Express LVT.
Voilà. Bonjour Charlotte.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
On va le faire à deux.
Bonjour Charlotte.
À moins de 20 jours du premier tour de la présidentielle, Renault a donc finalement fait son choix.
Oui, et c'est sur sa page Facebook non officielle que le chanteur de 64 ans a fait cette annonce. Le 23 avril prochain, il votera Emmanuel Macron, le seul, je cite, qui me paraît intègre, le seul sans parti, le seul sans casserole au cul et la seule alternative aux Le Pen et aux Fillon. Longue vie à En Marche, conclut Renault. Renault qui, avant l'affaire du Penelope Gate, avait affiché sa sympathie pour François Fillon.
Pour la pré-campagne présidentielle, la course de vitesse entre les éditeurs est évidemment déjà lancée.
Et la palme revient pour le moment aux éditions Flammarion qui publieront dès le 10 mai, soit 3 jours à peine après le second tour, un livre intitulé provisoirement « Au cœur de la présidentielle 2017 ». Les journalistes Alexandre Duic, ancien grand reporter au JDD, et Soazic Kemener du magazine Marianne entraîneront le lecteur dans les coulisses de la campagne la plus folle de l'histoire de la Ve République, promet l'éditeur. Nul doute que l'ouvrage ne sera pas le seul à envahir les rayons des librairies dans les semaines qui suivront l'élection du prochain chef de l'État.
Une grande vente aux enchères sera organisée demain à la mairie de Paris.
L'argent récolté servira à venir en aide aux victimes d'attentats, projet initié notamment par Camille Simien, l'une des victimes du Bataclan le 13 novembre 2015. 69 artistes au total ont donné des objets. Il y aura entre autres une caisse claire de Metallica, une guitare d'Indochine, une autre de Julien Doré, une partition de Benjamin Biolay ou encore un chemisier de Vanessa Paradis.
Ma folie, mon envie, ma lubie, mon idée.
Et tous ces objets seront à découvrir dès 17h demain à la mairie de Paris, juste avant la vente. Ils seront ensuite cédés sur eBay jusqu'au 30 avril.
Vincent Cassel poursuit sa carrière hollywoodienne.
Après avoir incarné le bad guy de Jason Bourne, l'acteur français donnera la réplique à Kristen Stewart dans le thriller d'action Underwater, annoncé comme un Armageddon sous-marin. Le tournage vient tout juste de débuter à la Nouvelle-Orléans.
Roman Polanski, toujours menacé par la justice américaine.
Roman Polanski voulait revenir aux États-Unis, mais sans être menacé d'emprisonnement. Un juge américain a rejeté sa demande. Rappelons que le cinéaste franco-polonais âgé de 83 ans est accusé d'avoir drogué puis violé une adolescente de 13 ans en 1977. Il aurait pu provoquer un grave accident à Los Angeles. Harrison Ford ne sera pas sanctionné. Mi-février, l'acteur de 74 ans à bord de son avion avait confondu la piste d'atterrissage avec la piste de décollage. Il avait failli s'y poser alors que s'y trouvait déjà un Boeing d'American Airlines avec 110 passagers et 6 membres d'équipage à bord. L'ancien Indiana Jones risquait notamment la suspension de son permis de pilotage. Il n'en sera rien.
Merci beaucoup Charlotte. C'était les Express de Laissez-vous tenter. Dans quelques instants, un grand journal musical préparé pour nous par Stephen Bellery. Vous allez découvrir le premier album d'une chanteuse formidable. Elle s'appelle Juliette Armanet.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvin.
La musique maintenant. Bonjour Stephen Bellery.
Bonjour à tous.
On va parcourir les sorties de la semaine avec vous. On commence par la parution vendredi prochain du premier album de Juliette Armanet qui s'appelle Petit Ami.
Oui, et c'est un énorme coup de cœur, l'un des disques les plus réjouissants du printemps. 12 morceaux, un ensemble élégant et raffiné. C'est de la dentelle, de la haute couture tout en étant très populaire. Voici le morceau d'ouverture, ça s'appelle L'amour en solitaire. Armanet a 33 ans, elle était journaliste jusqu'à présent, elle faisait des documentaires pour Arte. Sa voix est cristalline, aérienne, ses textes ciselés, douloureux, nostalgiques, amoureux. On ne peut pas s'empêcher de penser à William Scheller, Véronique Sanson ou même Mylène Farmer, vous l'entendrez. Le piano est partout, ses chansons, douces amères, débordent d'humour alors qu'elles évoquent pour la plupart des peines de cœur. Alliage de douceur et de fragilité, de rupture et d'espoir, cet album est un bonbon acidulé, un vent d'air frais. Rencontre en musique avec Juliette Armanet.
Nostalgie, amour, piano, c'est la Sainte Trinité. Comme ça vient de loin, toutes ces histoires, comme elles sont à la fois autobiographiques et fantasmées, j'ai l'impression qu'il y a de toute manière quelque chose de totalement sincère, donc de totalement impudique hein, dans ce disque, ça c'est une évidence.
Vous dites « je pleure beaucoup quand j'écris ».
On se libère de certaines choses, on met en forme certaines émotions qui sont souvent un peu embuées dans un brouillard. On s'enroule, on se roule aussi dans ces émotions pour qu'elles prennent la forme la plus précieuse, la plus vraie, la plus brute aussi. Oui, je pleure, mais en fait, ça me gêne pas du tout, ça me fait du bien.
Accident dans ma chair, j'ai pas fait ma prière. Grand blessé volontaire, j'ai lové ma peau contre tes bouts de verre.
Le piano, c'est vraiment comme un membre de ma famille, c'est-à-dire qu'il était dans le salon quand je suis née, quand je suis arrivée au monde. Mes parents sont pianistes, mon frère joue, ma cousine joue, tout le monde joue, ma grand-mère jouait. Donc j'ai pas du tout eu besoin de l'apprivoiser, il était là. Et on m'a mis devant un piano comme on met devant une assiette de frites, quoi. Mais mon piano à moi, ma façon de jouer, oui, j'ai mis du temps, j'ai trouvé au fur et à mesure mes mélodies, mes accords, ma façon de jouer qui est pas exceptionnelle, mais qui est vraiment la mienne. Quand je suis partie de chez mes parents, j'ai acheté mon premier piano. piano que j'ai toujours aujourd'hui, avec lequel j'ai composé tout ce disque, qui est un bon vieux Yamaha, droit, à cajou. Voilà, ça fait partie de ma vie d'avoir un piano, j'en joue tous les jours. Quand je suis loin d'un instrument, c'est très dur pour moi, j'aime pas trop. Je crois que c'est Oscar Wilde qui disait que le rire est la politesse du désespoir. Je pense que c'est une jolie formule. Moi, j'ai un côté humour noir, un peu sarcastique, où comme ça, ça me permet de dédramatiser les choses que je ressens un peu trop violemment. J'aime rire de mes désespoirs parce que, au final, c'est ce qui les rend beaux, élégants et puis vivables.
Armanet fait du bien à la chanson française. Son premier album s'intitule Petite Amie. Il est publié ce vendredi. Juliette Armanet chantera le 22 avril au Printemps de Bourges ou encore le 16 juillet au Francofolie de La Rochelle.
Vous m'avez fait découvrir un artiste. On poursuit avec le retour d'une voix. Vendredi prochain, Daniel Lévy publiera un nouvel album qui porte sobrement son nom, Steven.
Vous avez dit Daniel Lévy, mais oui, souvenez-vous, c'était ça. L'envie d'aimer, tube de la comédie musicale, les 10 commandements. 17 ans plus tard, Daniel Lévy revient avec 15 nouveaux morceaux. On l'avait un petit peu perdu, hein, faut être honnête, depuis 2005 et la sortie de son quatrième disque. Cette nouvelle collection, un poil monotone, a quelques atouts, comme cette chanson « Sur ma route ».
Sur ma route, chaque pas est une chanson. Sur ma route, chaque endroit a ses raisons.
Daniel Lévy, 55 ans aujourd'hui, étonne avec la couleur jazzy de quelques morceaux. L'écrin est sobre, quatuor à cordes, contrebasse, la voix est chaude. On a plaisir à la réentendre. Autre extrait, à quoi ça sert ?
À quoi ça sert aimer si on doit en souffrir ? Qu'est-ce qu'on peut faire du temps qui reste à cette terre ? Si on est éphémère, alors à quoi ça sert ? À quoi ça sert nourrir ce goût ? Éternité. À quoi ça sert courir après tous ces regrets?
Le cinquième disque de Daniel Lévy sortira ce vendredi. Il devrait annoncer des dates de concert prochainement.
Dans les bacs vendredi aussi, Steven, le nouvel album du chanteur Kabylie Dire, Ici et ailleurs, c'est le nom du disque.
Oui, 10 titres, 10 reprises de chansons qui ont bercé l'enfance. Didier, star de la chanson en Algérie, l'interprète d'Avava Inouva, a convié de nombreux artistes pour faire revivre ses morceaux dans des versions bilingues, ensoleillées. Je voulais vous faire découvrir une chanson. Idir réinvente la corrida de et avec Francis Cabrel.
مغرب سوز قرر ذولان سودنا يدي والخيال سشاش زق وغار
Est-ce que ce monde est sérieux
Dunia d'Aguida Warro
Andalousie Je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus.
Je vous irai découvrir les versions de la bohème avec Aznavour, On the Road Again avec Bernard Lavillier ou Né quelque part avec Le Forestier. C'est un très joli disque. Idir chantera avec tous ses amis sur la scène du Grand Rex à Paris le 8 novembre. L'album Ici et ailleurs sort lui dans 3 jours.
Le rendez-vous est pris et c'était donc un journal musical signé bien évidemment Steven Bellery. D'accord, en remerciant à nouveau Steven Bellery, je vous rappelle que nous vous offrons ce matin 2 très beaux livres parus chez Flammarion. Ils racontent qui était ce premier homme apparu il y a quelques 13 millions d'années dont nous parlait il y a quelques instants Isabelle Morelli-Bosque. Pour le gagner, il faut répondre à cette question. Comment s'appelle notre tout premier ancêtre apparu il y a quelques 13 millions d'années? Comment s'appelle-t-il? Le nom est très simple, c'est en 3 syllabes.
Oui, allez. Il y a des sucettes qui commencent
par oui, voilà, par exemple, on peut dire ça.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Dites-moi Isabelle, comment s'appelle notre tout premier ancêtre apparu il y a quelques 13 millions d'années dont vous nous parliez tout à l'heure dans l'émission?
Il s'appelle Pierola, il a des yeux d'ambre.
Il a des yeux d'ambre et donc si vous nous avez appelé au 3210, eh bien vous avez gagné les livres qui étaient en jeu ce matin, en l'occurrence une version adulte, oui. Voilà, et une version pour les enfants. Merci à Charlotte, merci à Isabelle et bienvenue à Julien.
Eh bien, bienvenue et vous êtes prêts pour le débat, j'espère, ce soir?
Oui, pas plus que ça.
Bon, écoutez, ils sont 11, ça va être sympa. Oui. Quel est votre programme pour le chômage?
Je pense qu'il faut baisser les charges, parce que je pense qu'avec autant de charges, on va avoir un pouvoir d'achat.
C'est effectivement important d'avoir un pouvoir d'achat.
Il y a beaucoup moins de chômage.
Ça serait ça,
mais non, nous allons passer à la politique extérieure. Vous voyez, ça va être sympa, je pense. J'ai quelqu'un à vous présenter, M. Calvi. C'est notre premier auditeur, il s'appelle Alain Patrick. Alain Patrick, bonjour.
Oui, bonjour Julien.
Alain Patrick, expliquez à Monsieur Calvi, oui, qui est très, très attristé par votre affaire, ce qui vous arrive. En deux mots.
Dites-nous tout, Alain Patrick.
Mais écoutez, dernièrement, j'ai eu affaire à... J'ai commandé, alors que je commande régulièrement sur des sites internet.
Oui.
Allez-y, dites-nous carrément le problème, Alain Patrick. Parce qu'il va s'en aller après.
Le problème, figurez-vous que je suis passé par une boutique spécialisée qui s'appelle, je peux nommer...
Oui. Allez-y, Alain Patrick.
Allez-y.
D'accord. Sexy Avenue.
Oui.
Et pour commander un sextoy.
Oui. Et le problème, quel est le problème?
Et le problème, c'est que après deux petites utilisations, oui, très très brèves,
des petites,
bah,
hein,
oui, vraiment très brèves, toutes petites utilisations,
oui, on va dire, voilà.
Voilà.
L'appareil est tombé carrément en rade, alors qu'il était neuf. Hein, je précise, il est tombé carrément en rade. Alors évidemment,
qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller? Parce que Yves, l'autre jour vous m'avez montré, vous en avez réparé un. Qu'est-ce qu'il peut faire? Peut-être tout de suite.
Oui. En quoi puis-je vous être utile, cher Alain Patrick?
Il faut qu'il sorte absolument la boîte à outils parce que là, c'est un appareil qui est serti. Alors évidemment, ça va lui poser quelques problèmes.
On va s'en occuper. Yves, essayez de voir ce que vous pouvez faire de votre côté. Nous, on va appeler le magasin.
C'est un dossier qu'on est en train de prendre en charge avec Charlotte et Isabelle.
Merci beaucoup, Yves. Bonne journée.
Et bonne journée. Merci beaucoup de m'avoir associé à cette.
Je vous en prie.
À ce dossier délicat.
Je peux faire plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. À demain.